avoir des échanges.
Madame la Présidente, chers maîtres, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai conscience de réparer ici une occasion que nous avions rencontrée il y a quelques mois et que des circonstances indépendantes de notre volonté commune ont fait que cette rencontre n'a pas eu lieu. Et par conséquent, je suis heureux de pouvoir dialoguer avec vous aujourd'hui, heureux aussi de pouvoir dialoguer, grâce à vous, avec Christine Lazerge, dont le dialogue est entamé avec elle depuis déjà bien, bien longtemps et se poursuivra encore longtemps, j'en suis sûr. Je vais donc m'exprimer, ou plutôt poser quelques questions devant vous ce soir sur l'accès aux droits dans les lieux de privation de liberté, puisque c'est là que se situent mes maigres compétences. Je vais d'ailleurs prendre quelques précautions de méthode sur ce point. Accès aux droits au singulier ou accès aux droits au pluriel ? Accès aux droits au singulier, c'est une façon de conceptualiser les choses. Je crois que Christine Lazerge va d'ailleurs d'en faire la brillante démonstration. Pour ma part, je suis plus attentif, mais ça n'est pas du tout contradictoire, à l'accès aux droits au pluriel. Christine Lazerge vient d'évoquer le concept d'effectivité. Je suis personnellement très attentif à cette question. Je crois même que c'est dans la nature de notre tâche. Et donc, je suis peut-être enclin à parler plutôt au pluriel. La deuxième chose que je voudrais dire à titre de précaution, c'est que, au fond, il y a peut-être une illusion dans la métaphore de l'accès au droit. L'accès au droit, on s'imagine au fond assez volontiers le droit comme tapis au fond d'un labyrinthe ou comme grimper au sommet d'une montagne, et il faudrait beaucoup de cheminements douloureux pour enfin accéder en quelque sorte, je change de métaphore, au jardin des esprits. Le droit comme pomme d'or. Je crois que c'est se tromper sur la nature de notre société d'une certaine manière de concevoir les choses ainsi. Car si nous disons, si nous revendiquons que nous sommes un état de droit, ça signifie que le droit innerve d'ores et déjà, nous posons comme postulat, toute notre société. Et par conséquent, ce qui se pose, si nous pensons cela, c'est pas tellement l'accès au droit comme, au fond, trésor caché quelque part, mais comme réalité du droit, comme innervation du droit dans la vie quotidienne. Autrement dit, je pense moins accès au droit que application du droit. Et enfin, troisième précaution que je voulais prendre, on va dire que si, alors on raisonne accès ou application, peu importe, personne n'est en mesure aujourd'hui en France de quantifier les échecs de l'accès ou de l'application du droit. Parce que personne ne s'y intéresse. J'ai en mémoire une étude très intéressante, il y a quelques mois, qui n'a pas manqué de vous frapper aussi, je pense, qui concernait les cas où les personnes avaient normalement accès à des prestations sociales qu'ils ne réclamaient pas. Et d'ailleurs, cette étude a fait pleinement apparaître que l'avantage financier des organismes sociaux tiré de cette absence de recours était largement supérieur ou des avantages tirés de la fraude. C'est une étude qui est passée vite sous le tapis. Mais je crois qu'il faudrait se poser la question, même si les prestations sociales sont une part de l'accès au droit, quelles sont les prestations juridiques qui sont ainsi manquées par nos concitoyens? Et moi, j'invite aujourd'hui tous ceux que vous êtes, que nous sommes, à demander qu'il y ait des études de cette sorte, qui soit inventorié et dont les résultats soient publics. Alors j'en viens plus précisément au lieu privatif de liberté. Je voudrais le faire de trois manières. D'une part, de m'interroger sur le droit de façon générale et ses lieux. D'autre part, de m'interroger sur l'usage du droit dans ces lieux. Et enfin, de terminer sur le droit comme subversion dans ces lieux. Je vais dire pourquoi. Alors le droit et les lieux de privation de liberté, je vais mettre mes pas dans les brisées que vient de franchir Christine Lazerge pour évoquer, au fond c'est un point de départ, sur les règles applicables dans ces lieux et la manière surtout dont elles sont connues dans ces lieux. Alors, comme elle l'a très très bien démontré, comme chacun de vous peut le sentir, le savoir professionnellement, il y a un afflux de ces règles multiples, et ce qui est très intéressant, c'est de constater que plus notre période est contemporaine, plus il y a une multiplication effrénée de ces règles. Il y a 20 ans ou 25 ans, le Code de procédure pénale consacrait 3 articles à la garde à vue, aujourd'hui il y en a 30. En matière de zone d'attente, il n'y avait rien avant 91. Aujourd'hui, il y a une bonne trentaine d'articles. On vient de faire subir le même sort à l'hospitalisation sans consentement. Nous travaillons sous les auspices d'Esquirol, dont le nom est inscrit en haut de cet amphithéâtre. L'hospitalisation sans consentement, qui a d'ailleurs pris un nom beaucoup plus compliqué maintenant, occupe aussi parts considérables du Code de la santé publique, depuis notamment la loi du 5 juillet 2011. Et la question qui se pose naturellement, c'est pas de savoir ce qu'est cette inflation, Christine Lagier vient de le dire, c'est de savoir comment elle se traduit dans les lieux de privation de liberté. À cet égard, il faut être très clair. D'abord, ces règles ne sont pratiquement jamais connues des intéressés. Jamais connues des intéressés. Et au fond, ces règles que nous prenons les justifiant ainsi, nécessaire de dérouler, au fond, donc de les multiplier, parce que c'est une garantie supplémentaire aux personnes qui pourraient être ou qui seront privées de liberté, en réalité, la garantie est nulle, puisque ces règles ne sont pas connues. Alors, il y a de ça plusieurs raisons. Les personnes qui sont en général privées de liberté sont massivement, je rends hommage ici à quelqu'un dont la disparition me laisse inconsolable, c'est Robert Castel, les personnes privées de liberté sont massivement des désaffiliés de notre société, des surnuméraires, comme il disait encore. Et par conséquent, ce ne sont pas ceux-là qui sont les plus prompts à s'intéresser à la façon dont est rédigé le Code de procédure pénale. Deuxièmement, il y a dans ces désaffiliés des catégories particulièrement défavorisées. Nous en parlions avec Christine Lazerge à l'instant. C'est par exemple les étrangers. 18% d'étrangers dans les prisons françaises. C'est par exemple les mineurs. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres obstacles qui font que les gens n'ont pas accès à ces règles et n'ont pas même conscience qu'elles existent. Deuxième obstacle dans ces lieux de privation de liberté, c'est qu'il n'y a pas d'instrument dans les lieux privatifs de liberté pour connaître ces règles. J'ai publié au mois de septembre un avis au Journal officiel dans lequel, parmi d'autres choses, je m'étonnais de ce que les circulaires de l'administration pénitentiaire ne sont jamais diffusés dans les établissements pénitentiaires. Par conséquent, le droit qu'a tout un chacun dans ce pays de contester un acte administratif qui le concerne, ne s'étend pas aux personnes qui sont incarcérées dans les établissements pénitentiaires. Je pourrais dire la même chose des établissements psychiatriques. Alors naturellement, on va me dire, mais ce que vous dites là est faux, puisque d'une part, point n'est besoin que le texte arrive lui-même, on peut trouver des traductions, et puis d'autre part, il y a des traductions qui existent. Oui, c'est vrai, il y a de multiples formes d'accès à ces règles dans les établissements privatifs de liberté. Ce qui me gêne énormément, c'est qu'elles ont toujours une source, ces traductions. C'est précisément l'homme qui ou la femme qui enferme. Autrement dit, c'est sous des formes extrêmement diverses. Le livret d'accueil, quand vous entrez dans un hôpital, on vous donne un livret d'accueil, et sur ce livret d'accueil, il y a vos droits. Donc, quelquefois, il y a même écrit que vous avez le droit de faire recours. Il n'y a pas l'adresse du tribunal. Vous avez des livrets d'accueil dans les prisons, etc., etc. Mais, encore une fois, ces livrets d'accueil ou ces traductions, elles sont rédigées par ceux qui vous privent de liberté. Et par conséquent, ces documents sont toujours rédigés de bonne foi. Je n'ai jamais trouvé aucun de ces livrets dans les établissements pénitentiaires, le nom et l'adresse du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais on ne peut pas demander aux gens de se mettre un pistolet sur la tête. Je crois par conséquent que si ces traductions sont dépendantes de l'administration même qui en a la charge, de ces lieux, eh bien, il faut penser que ces traductions ne sont pas parfaites. Il faut penser aussi que, par exemple, de façon un peu plus triviale encore, la notification des droits qui est faite, que la loi prévoit toujours, elle peut aussi se faire de façon très imparfaite. Assister à une notification des droits en garde à vue, à une notification des droits à un étranger qui est non admis sur le territoire, on pourra être surpris de la productivité très élevée des fonctionnaires qui sont chargés de l'affaire. Ça se fait extrêmement vite. Il y a beaucoup à dire sur la productivité policière dans ce pays. Là, il n'y a rien à dire. Et tant pis si c'est un étranger, et tant pis s'il n'entend pas la langue française. J'avais fait un jour cette découverte, c'était dans une maison d'arrêt qui n'est pas très loin d'ici. Il y a des procédures disciplinaires dans les établissements pénitentiaires, comme vous le savez bien, et il y a des imprimés pour ça, et dans le procès-verbal de la commission de discipline, il y a une petite case quelque part, l'étranger comprend-il le français, ou la personne incarcérée comprend-elle le français, coché. Et nous avions assisté ce jour-là, dans cette maison d'arrêt, à une série de commissions de discipline, dans laquelle il y avait un étranger qui ne comprenait rien à rien. Et puis comme nous sommes restés quelques jours dans cette maison d'arrêt, nous avons attendu quelques jours, et le dernier jour, moi j'étais demandé la consultation des procès-verbaux de la commission de discipline. Et j'ai consulté le procès-verbal de la commission de discipline pour cette personne-là. L'étranger comprenait le français, clac, clac, oui. Il comprenait le français. Eh bien, c'est terminé. Pas besoin d'interprète. Il comprend le français. Comment ces droits sont-ils traduits pour être connus des personnes auxquelles ils s'appliquent? La troisième remarque que je voulais dire, c'est que, là aussi, je vais suivre ce que suggérait Christine Lazerge tout à l'heure, c'est que dans ces lieux privatifs de liberté, la bonne vieille hiérarchie des normes que nous avons appris en suçant le lait de nos doyens des facultés de droit, si j'ose m'exprimer ainsi, la bonne vieille hiérarchie des normes n'a aucun sens. Nous avons appris conventions internationales, lois, etc., etc., et tout en bas, la circulaire ou l'arrêté ministériel qui ont la même valeur juridique. Dans les lieux de privation de liberté, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, naturellement. La première norme, c'est le chef. C'est le chef qui parle. C'est le chef qui parle. Nous avons essayé la semaine dernière d'entrer dans un commissariat de la région bordelaise. C'était le soir à 9h du soir. Il y avait là un brigadier chef et il n'a pas été question de nous laisser rentrer. Et il a fallu qu'il téléphone au chef. Comme le chef était en train de dîner, il a fallu attendre un certain temps, et quand le chef a parlé, la norme s'est exprimée, nous avons pu rentrer. La deuxième norme, c'est le chef, mais elle est déjà beaucoup moins forte, celle-là. C'est le chef qui écrit. C'est la note de service. Pas la note de service d'un autre chef, la note de service de son chef. Donc si vous exhibez une note de service d'un autre établissement où le problème se pose exactement dans les mêmes termes pour dire c'est comme ça qu'on a réglé, donc peut-être qu'ici ça... Non. Moi, j'ai pas de note de mon chef. Donc, ça ne marche pas du tout. Après ça, vous avez en effet la circulaire ministérielle. Mais là, on arrive déjà aux intellectuels des brevets, c'est quoi, hein. Je veux dire par là que j'ai interrogé un jour... Enfin, on a, avec un certain nombre de mes collaborateurs, interrogé fonctionnaires d'un établissement privatif de liberté pour savoir combien avaient lu le règlement intérieur. Et nous sommes arrivés, dans la meilleure des hypothèses, à 40%. Donc 60% des fonctionnaires de cet établissement étaient chargés d'appliquer un règlement qu'ils n'avaient jamais lu et que, naturellement, aucune formation ne s'était donné la peine de leur faire connaître. Donc, on arrive à la séquence. Alors, si après on parle de décret ou de loi, c'est des choses qui sont absolument inconnues. Inconnues. Voilà. Donc vous entrez avec votre carapace de bon juriste naïf, et on vous envoie dans les dents des choses aussi bêtes qui sont « mais mon chef m'a pas dit les choses comme ça ». Et vous avez qu'à remballer votre bagage d'Allos et compagnie. c'est terminé. Donc je crois que les règles qui s'appliquent dans les lieux de privation de liberté ne sont pas celles que nous pratiquons et peut-être que nous avons apprises. Alors, deuxième point que je voulais aborder aussi, c'est que, par contrepoint de ce que je viens de vous dire, quelles sont les règles les mieux établies dans les lieux de privation de liberté ? Il se déduit de ce que je viens de vous dire que plusieurs choses. D'abord, il y a une différence entre nous autres et les personnes privées de liberté. Les personnes privées de liberté, elles ont certainement, dans l'esprit en tout cas de beaucoup, y compris de ceux qui les gardent, des choses à se reprocher. Et la question de savoir si la loi s'applique vraiment à ces personnes-là est une question douteuse. Monsieur, ce sont des voyous. Monsieur, ce sont des hors-la-loi. Et si ce sont des hors-la-loi, par conséquent, est-il nécessaire de leur appliquer la loi ? Alors, ce n'est pas une question qui se pose aussi brutalement que je le résume ici, mais c'est une question lancinante dans tous les lieux privatifs de liberté. Vous ne pouvez pas faire admettre qu'il y a la loi pour tous. Ce n'est pas possible pour les gens qui ont besoin d'une reconnaissance sociale, et je comprends bien ça, il faut le comprendre aussi, sinon on ne comprend rien ce qui se passe dans ces lieux-là, qu'ils ne bénéficient pas tout à fait de la même loi que ceux qui sont chargés de garder. Ça serait une injustice profonde. Et il y a un discours lancinant dans les fonctionnaires qui travaillent dans ces lieux privatifs de liberté, c'est la loi, elle est trop généreuse pour ces gens-là. Elle est trop généreuse. Donc, il n'est pas certain qu'il faille autant se préoccuper que nous le faisons nous autres de l'application de la loi à ces personnes. Une des variantes de cette conviction très profonde, et que je ne veux pas critiquer trop vite, trop facilement, hein, car socialement, elle s'écrit parfaitement bien. Une des variantes de cette conviction très profonde, c'est trop de droits pour eux. Trop de droits pour eux et pas assez pour nous. Ça, c'est aussi un autre refrain assez constant. Lorsque, au début de l'année dernière, l'administration pénitentiaire, en négociant avec ses fournisseurs, a obtenu une réduction de 10% sur le prix des cantines pratiquées en prison, la seconde organisation syndicale des surveillants a publié un tract dans lequel elle a parlé de fouquettes carcéraux. Et je crois que de leur part, ça n'était pas une exagération feinte. Ils l'ont vécu comme ça. Hein ? C'est-à-dire qu'on a donné à la vouillocratie, des choses que même nous ne pouvons pas, auxquels nous ne pouvons pas accéder. Et je crois que c'est aussi un sentiment très profond. Et c'est aussi ce sentiment que, pour commencer à travailler dans ces lieux-là, vous devez avoir présent à l'esprit qu'ils ont le sentiment que cette inflation législative dont on a parlé à l'instant, c'est toujours dans le même sens. C'est toujours pour eux et pas pour nous. Et encore une fois, il faut comprendre cette mentalité pour aborder ces lieux-là. Troisième élément aussi que je voudrais dire, c'est que même si la loi parvient, vaille que vaille, un peu en haillon dans ces lieux, elle ne parvient que si elle est endossée, acceptée par le personnel. Il y a ça, à cet égard, une très très belle illustration que vous connaissez aussi bien que moi, c'est celle de la loi pénitentiaire, article 57, concerne les fouilles de sécurité, ou encore fouilles à corps dans les établissements pénitentiaires, pour lesquelles la loi de 2009, du 24 novembre 2009, posait des principes qui étaient au fond ceux de la Cour européenne des droits de l'homme depuis un certain nombre d'années, enfin, qui consistait à dire on ne peut fouiller à corps, et donc risquer une humiliation, que si on suspecte, on a des indices sérieux pour penser que la personne transporte sur elle des objets ou des effets prohibés. Très bien. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des établissements pénitentiaires ? Strictement rien. Et on a continué donc à pratiquer les fouilles systématiques à l'entrée, à la sortie de l'établissement, à la sortie des parloirs. Et la question des fouilles est extrêmement sensible des deux côtés en détention. pour les détenus parce que c'est une épreuve épouvantable, pour les surveillants parce que c'est aussi une épreuve, et puis parce que pour eux c'est une garantie de sécurité. Donc la loi n'a strictement rien changé à cet égard. Et je dois dire qu'il a été piquant d'entendre dans la bouche d'un syndicaliste, peu de temps après l'évasion de Redouane Faïd, de la prison de Sequedin, dire si Redouane Faïd a pu s'évader, c'est parce que les fouilles ne se font plus dans les prisons. Donc, non seulement la loi n'a pas été appliquée comme il fallait, mais les surveillants ont eu l'impression que même le seul fait qu'elle était écrite violait déjà en réalité leurs droits. C'est stupéfiant, ça. Et il y a beaucoup d'images de ça. Il y a aussi dans la loi pénitentiaire la définition du droit à l'image des personnes détenues. Les films sont tournés dans les prisons. L'administration pénitentiaire exige toujours le floutage des visages des détenus. Les détenus n'ont pas encore droit à l'image, alors même que la loi l'indique. La loi indique que les étrangers qui ne sont pas admis sur le territoire peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un délai d'un jour franc avant de repartir dans le pays d'où ils proviennent. Foutaise. Il y a dans chaque poste de police, dans chaque aéroport ou chaque port, un fonctionnaire qui remplit un procès-verbal et qui coche lui-même la case « L'étranger ne demande pas le bénéfice du délai de jour franc. » Et la musique est jouée. Et nous avons fait cette remarque 10 fois, 15 fois, et l'administration continue à nous soutenir. Nous avons une lettre encore récente d'une autorité importante du ministère de l'Intérieur nous disant « Non, non, mais le fonctionnaire est très attentif à demander... » Voilà. Donc, je crois que la loi ne s'applique qu'à partir du moment où les personnels l'ont accepté. Et comme le disait d'ailleurs un surveillant, une personne détenue qui nous le racontait il n'y a pas très longtemps, mais de toute façon, tout ça pour nous, surveillants ou fonctionnaires en général, n'a aucune importance. Nous sommes assermentés. Et par conséquent, quand un cas précis d'application de la loi va se poser, parole contre parole, devinez qui gagne. La sermentation ou l'art juridique du mensonge. Je voudrais aborder mon deuxième point sur l'usage du droit dans les lieux privatifs de liberté. Je crois qu'il faut reconnaître que compte tenu de ce que je viens d'écrire, ou en tout cas si ce que je viens d'écrire est vrai, il n'est pas possible de dispenser les personnes privées de liberté d'une aide extérieure. Et c'est pour ça que, pour moi, la vérité des lieux privatifs de liberté, c'est la manière dont ils sont ouverts ou pas sur l'extérieur. Je ne vais pas parler, je vais réserver ça pour la discussion, cet artifice devant vous, je ne vais pas parler ici du rôle de l'avocat. Je voudrais dire qu'il y a, dans ces lieux privatifs de liberté, un certain nombre de partenaires dont le rôle me paraît absolument indispensable. Il y a d'une part un certain nombre de professionnels qui jouent un rôle éventuellement d'aide à l'accès au droit ou à l'application du droit, comme je l'ai défini tout à l'heure, les conseillers pénitentiaires d'insertion, probation, les assistants sociaux dans un certain nombre de cas, il y a même des commissariats pas très nombreux maintenant, c'est fini, où il y a encore quelques assistants sociaux, etc., etc. Mais il y a quand même une aspiration de l'ensemble de ces personnels à ne plus rendre service aux personnes privées de liberté sur ce point. C'est-à-dire que ces personnels sont aspirés en quelque sorte par le haut. C'est très flagrant pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont aujourd'hui en quelque sorte des aides précieuses d'ailleurs, des juges de l'application des peines, plus que des aides juridiques aux personnes détenues. Autrement dit, comme je l'ai déjà écrit, je le résume ici pour ne pas vous ennuyer, mais les SPIP font de plus en plus de dossiers pour des gens qui connaissent de moins en moins. Deuxième personne qui peuvent intervenir dans ces lieux, c'est un nombre de médiateurs, et en particulier, il y a dans les prisons des délégués médiateurs, sur le rôle desquels il faut absolument s'interroger, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils ne sont pas efficaces. Ça dépend beaucoup des situations. Il y a des cas où ils sont utiles, il y a des cas où ils font, à mon sens, un petit peu de figuration, ou en tout cas de trop grand respect vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. Puis il y a enfin un certain nombre d'associations qui interviennent, ou bénévoles, dans ces lieux. Et je voudrais citer la zone d'attente, naturellement, les centres de rétention administrative, dans lesquels il y a les associations humanitaires que l'on sait. Il y a les hôpitaux psychiatriques dans lesquels il y a une association qui s'appelle UNAFAM qui intervient quelquefois de façon efficace, pas toujours. Et puis il y a aussi dans les prisons un certain nombre de visiteurs, etc., etc. Il y a aussi des interventions qui ne sont pas inutiles. Je le dis parce qu'elle est en train d'avoir des difficultés financières très profondes, cette association-là. C'est une association qui s'appelle l'ARAPEJ qui donne aux personnes incarcérées le secours de conseils juridiques par téléphone qui sont extrêmement bienvenus et qui sont aujourd'hui donc extrêmement menacés. Donc il y a des aides qui sont indispensables. Je crois qu'il y a aussi des organes dont la présence est indispensable. Il y a le juge des libertés de la détention. Je voudrais dire à ce propos d'ailleurs corriger un tout petit peu un effet négatif qui pourrait apparaître de cette inflation législative dont nous parlions. Il y a quand même des cas où il faut quand même faire des lois aujourd'hui. Hein. Et l'introduction du juge des libertés de détention dans le processus d'hospitalisation sans consentement, qui n'a pas été voulu par aucun exécutif de ce pays, ni aucun parlement, pardonnez-moi, mais qui a été voulu par le Conseil constitutionnel, est quand même quelque chose de bienvenu. Hein. Donc il a fallu écrire peut-être quelques articles de loi, mais ces articles de loi sont pour moi d'une très grande nécessité. Il y a d'autres personnes qui apportent leur concours aussi. Je pense au commissaire départemental des soins psychiatriques, par exemple, qui sont des gens que les malades hospitalisés sans consentement peuvent saisir. Bref, il y a un ensemble de choses qui ont été conçues pour aider les gens privés de liberté, qui ne sont pas négligeables. Mais la question qu'il faut toujours poser, c'est est-ce que ces aides extérieures sont efficaces? Oui, non. Est-ce qu'elles sont réellement indépendantes? Oui, non. Et sur ce point, il ne suffit pas de dire qu'on crée des organismes piqueux, il faut s'interroger lucidement pour savoir si, par exemple, dans les centres de rétention administrative, les associations qui sont là, les personnes étrangères peuvent avoir librement accès à elles ou pas. Bon, la réponse est souvent négative. Donc je crois que la loi se rassure à bon compte sur ces aides extérieures qu'elle apporte aux personnes privées de liberté. Et sur ce point, je crois qu'il faut s'interroger encore une fois très, très, très lucidement sur le rôle exact qu'elle joue. Quels sont, dans cet usage du droit, dans les lieux privatifs de liberté, l'objet des procédures? Je parle ici des personnes privées de liberté, naturellement. Je ne parle pas des fonctionnaires. Alors, il y a à la fois un contentieux massif, un contentieux spontané et un contentieux inexistant. Contentieux massif, c'est évidemment le contentieux que la loi a ouvert sur l'ensemble de situations et qui ne sont pas trop difficiles à exercer parce qu'ils mettent des choses un peu vitales en jeu, au fond. J'en cite deux. Il y a évidemment tout le contentieux de l'éloignement du territoire, expulsion, obligation de quitter le territoire, reconduite à la frontière, etc. Tout ceci se fait, pas toujours dans de bonnes conditions, mais se fait quand même assez largement. Deuxièmement, il y a le contentieux aussi, il y a des spécialistes près de moi, je ne vais pas insister, de la demande d'asile. Il y a enfin le contentieux de la demande de mise en liberté pour les prévenus, qui joue tout à fait son rôle, même si quelquefois ça encombre un peu les tribunaux, mais ces personnes ne peuvent le regretter. Chacun joue son rôle. Là encore aussi, il faut toujours questionner la pratique pour savoir si, dans tous les cas, il y a des jeux qui se déroulent à peu près sans anicroche. Non, ce n'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de difficultés. Mais il y a là au moins des indices d'un contentieux qui, en tout cas, est reconnu. Il y a des contentieux spontanés, je veux dire, qui sont le fruit des personnes privées de liberté, notamment hospitalisées sans leur consentement ou bien incarcérées, qui font des recours contentieux de leur propre initiative, proprio motu. Alors là, c'est absolument désespérant. Parce que c'est là, évidemment, qu'on découvre ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la méconnaissance profonde du droit par ces personnes-là. Donc, tout le monde dans ce pays connaît la plainte. Tout le monde connaît la plainte. Donc, on sait qu'il faut se plaindre. Tout le monde connaît, non, beaucoup moins de gens, mais beaucoup de gens encore connaissent le procureur. Alors, plainte, procureur. Donc, on écrit au procureur. Après, c'est désert. C'est désert. Qu'est-ce que le procureur doit faire de cette plainte? Qu'est-ce qu'on fait s'il ne répond pas? Est-ce qu'on a une autre alternative que d'écrire au procureur? À qui est-ce qu'on doit... etc. Tout ça dépasse totalement les personnes qui écrivent, alors à la chaîne quelquefois, et notamment de la part d'autodidactes juristes, il y en a en détention. Tout le monde écrit, mais ça ne mène à rien. Et là où je disais tout à l'heure qu'il fallait interroger, notamment de façon quantitative, les échecs du droit, le nombre de classements sans suite qui suivent ces plaintes de détenus, par exemple, serait intéressant. Quand je rencontre un procureur, je demande toujours s'il met à part les plaintes qui viennent de l'établissement pénitentiaire du ressort du tribunal de grande instance. J'ai toujours eu, pour l'instant, des réponses négatives. Donc personne ne sait dans un tribunal isoler ces plaintes et par conséquent dire ce qu'elles deviennent. Je pense que 99% au moins sont classées sans suite. Et dans ces 99%, je ne sais pas s'il y en a 4, 5, 10, 15, il y a sûrement quelques pourcentages non négligeables de plaintes extrêmement sérieuses. Extrêmement sérieuses. Et par conséquent, l'idée aussi que j'évoquais il y a un instant du « est-ce que la loi doit s'appliquer hors la loi ?» vaut quelquefois aussi, je suis désolé, pour les magistrats du parquet. Alors, il y a enfin les contentieux qui ne se font pas et sur lesquels nous avons beaucoup de choses à dire, nous autres. Avant la loi du 5 juillet 2011 qui a introduit le JLD dans l'hospitalisation psychiatrique, il y avait un recours ouvert devant le juge judiciaire sur le fond de la mesure et il y avait un autre recours ouvert devant le juge administratif sur les formes de la mesure. Donc ce recours était possible, il était inscrit dans la loi. Quand nous recevons, nous autres, au contrôle, des lettres des personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement, ce qu'elles demandent toujours, c'est leur libération. Donc il y a une bonne part de gens qui sont hospitalisés sans leur consentement, qui ne demandent qu'une chose, à sortir. Combien de recours y avait-il avant la loi du 5 juillet 2011 sur les 80 000 hospitalisations psychiatriques sans consentement annuel? 1%. 1%. Pourquoi? Eh bien, pour un tas de raisons. Mais en tout cas, parce que personne ne s'est jamais soucié, avant que le Conseil constitutionnel ne réintroduise les choses, d'ailleurs par un autre coup, ne s'est jamais soucié de se savoir pourquoi ce recours ne donnait lieu à quelques requêtes qui, d'ailleurs, n'aboutissaient pas. Voilà, il y a donc un certain nombre de domaines, dans la garde à vue aussi. Il est impossible, évidemment, d'avoir une plainte déposée, puisqu'on sait que la vue, on ne va pas quand même mécontenter, etc. Voilà. Je voudrais évoquer, parce que je vais arrêter très vite, je suis trop long, quelques points sur le droit comme subversion dans les lieux privatifs de liberté. D'abord, je voudrais dire que pour les fonctionnaires, je force un tout petit peu, mais la loi, c'est quand même finalement leur volonté. Le droit, c'est ce qu'ils veulent. Leur réaction spontanée, je crois, c'est de dire « la loi, c'est moi ». La loi, c'est moi, pas dans le sens où Louis XIV disait « l'État, c'est moi ». Dans le sens où son lointain descendant, Louis XVI, disait devant le Parlement de Paris en 1788 « c'est légal parce que je le veux ». Ma volonté, c'est la loi. Donc il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont convaincus de ça. Et par conséquent, si vous dites non, la loi, c'est pas ça, c'est autre chose, il y a un truc qui dit que là, j'ai droit à ça, et pour que ce camp, je vais mobiliser ce droit. Et... imaginez comment vous allez être reçu par l'agent qui vous dit « la loi, c'est moi ». Mais vous allez évidemment mal reçu. puisque l'instrument juridique que vous avez développé pour contester sa volonté va apparaître, d'où le titre que je donnais à ce développement, va être comme subversif de la volonté de l'agent. La loi que vous allez mobiliser en votre faveur, c'est la loi que vous allez mobiliser contre l'agent. Et donc, c'est ça qui fait la difficulté de l'application du droit dans les lieux privatifs de liberté. Tant que l'agent et la loi n'y ont pas dans le même sens, c'est toujours la loi qui perdra. C'est toujours la loi qui perdra. Et par conséquent, aujourd'hui, dans ces lieux privatifs de liberté, que ce soit en garde à vue, pas trop dans les hôpitaux, encore que, mais dans tous les autres lieux privatifs de liberté, vous avez des gens qui essayent de mobiliser la loi et qui sont sévèrement punis parce qu'ils ont essayé de développer le droit à leur avantage. Et la gamme des punitions à l'égard des personnes privées de liberté est infinie, infinie. Et par conséquent, il y a quelque chose qui explique très largement ce pourquoi le droit a du mal à pénétrer ces lieux. Tant que les gens auront peur, la loi ne s'appliquera pas. Lorsqu'ils auront moins peur, la loi s'appliquera. Lorsque les agents seront convaincus que leur rôle est d'appliquer la loi, les choses iront mieux. Tant que les agents n'ont pas cette conviction première, les choses n'iront pas mieux. Ne pensez pas que ce que je dis là, d'une part, est caricatural. Je connais beaucoup de gens qui sont convaincus de ce que être dans un lieu de privation, c'est se faire le plus petit possible, parce qu'il ne faut pas effaroucher l'homme qui est chargé ou la femme de vous garder. Et deuxièmement, je crois que surtout, il faut imaginer que c'est difficile à résoudre. Et que parce que ce sont des métiers difficiles, parce que ce sont des métiers dangereux, évidemment qu'il vaut mieux qu'on ait une volonté forte pour que, voilà, elle va s'imposer tout de suite, et comme ça on sait qu'on n'aura pas d'ennui. Mais cette protection qui vient de la seule volonté, et non pas de la loi, c'est ça qui est préoccupant. Et c'est ça qui sera difficile à faire. Ne pensez pas que ça sera facile. Je termine en revenant à l'état de droit d'où je suis parti. Sommes-nous dans un état de droit dans ces lieux privatifs de liberté? Je vous laisse répondre.